ce passage dans le livre de la Genèse. Nous allons lire deux passages, un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau. Et le premier passage, il est dans le livre de la Genèse au chapitre 5, versets 21 à 24. Nous lisons ceci. Hénoc, âgé de 65 ans, engendra Methuselah, ou Methusalem pour ceux qui le veulent. Hénoc, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoc furent de 365 ans. Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Amen. Et cet autre passage dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, versets 5 à 6. C'est par la foi qu'Hénoc fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Hénoc marcha avec Dieu. Peu de choses est dit sur cet homme, ce personnage, Hénoc. Peu de choses, mais le peu que nous connaissons de lui, est une leçon de vie pour tout enfant de Dieu. Il nous est dit ceci, Hénoc, âgé de 65 ans, enfanta un fils. Et après la naissance de ce fils, il marcha. Il marcha avec Dieu pendant 300 ans. Quel courage! Quelle persévérance! Quelle persévérance! Le point essentiel de la vie de cet homme, de ce que nous avons lu de ces deux passages, le point essentiel n'a pas été ses succès. Le point essentiel n'a pas été les miracles qu'il a accomplis. Le point essentiel n'a pas été non plus les prodiges qu'il a faits. Aujourd'hui, nous avons tendance à évaluer le succès de quelqu'un, à même évaluer le succès d'une église par le nombre de membres. Or, nous voyons ici qu'il n'en est pas ainsi. Il n'est pas question des succès, des prodiges, des miracles qu'il a opérés. Nous avons tendance, frères et sœurs, et comme la parole de Dieu nous le demande, Paul le dira, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Nous aimons imiter les grands hommes de Dieu, n'est-ce pas? Nous aimons. Et Hénoc. Et Hénoc. N'est-il pas grand aux yeux de Dieu? N'a-t-il pas fait quelque chose qui suscité de l'émerveillement dans le cœur de Dieu? Hénoc marcha. Il est simplement question ici de sa marche avec Dieu. Il est simplement question de sa façon de vivre. Après la naissance de son fils, il prend cette résolution, il prend cet engagement, il choisit délibérément de vivre ainsi. La marche avec Dieu de cet homme est la preuve de son attachement, la preuve d'une fidélité. Malheureusement, ce que nous voyons dans notre société a gagné l'Église de Jésus-Christ. Où ce sont les prouesses des uns et des autres qui sont mis en avant. On dira cet homme est un grand homme de Dieu parce qu'il attire la foule, parce qu'il a une grande éloquence. J'aimerais, frères et sœurs, ce matin, que nous considérons ce qui a du prix aux yeux de Dieu plus que toute autre chose dans la vie du croyant. L'Église de Jésus-Christ est une Église en marche. Le chrétien est en marche. Ce n'est pas le slogan d'un parti politique. Le chrétien est en marche. Nous sommes continuellement appelés à marcher avec Dieu tout le long de notre vie sur la terre, et ce, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les circonstances. Nous l'avons chanté tout à l'heure, quelle joie de marcher avec Jésus. Quelle joie de marcher avec lui. Dans mon voyage ici-bas, frères et sœurs, rappelons-nous, nous ne sommes que de passage sur la terre. Nous ne sommes que de passage. Nous marchons vers notre destinée éternelle, vers la félicité céleste que le Seigneur a réservée à ceux et à celles qui croient en son nom. Nous sommes appelés tout le long de notre marche avec Dieu, même si nous avons conscience que cette marche ne sera pas facile, elle ne sera pas évidente. Mais quelle que soit la réalité, il y a là cette évidence, il y a là ce qui doit susciter de l'émerveillement, ce qui doit motiver le croyant au regard de celui qui est venu jusqu'à nous pour faire de nous ses enfants. Autrefois, nous étions, comme nous l'avons chanté, nous étions indignes, mais il est mort pour nous. Le Seigneur, après sa marche sur la terre, lorsqu'il est venu pendant ces 3 ans et demi en exerçant son ministère sur la terre, il a accompli parfaitement la volonté du Père. Et cela, voilà, a eu un écho favorable dans le cœur de Dieu. Jésus dira dans Jean 17, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné d'accomplir. » Et il demande à son Père de le recevoir à nouveau. Aujourd'hui, nous avons cette certitude et cette assurance qu'il est assis à la droite du Père. Et là, Jésus ne chôme pas. Là, il plaide en notre faveur. Et parce que Jésus est retourné vers le Père, le chrétien qui a été vivifié, celui qui a été transformé, renouvelé par la puissance de Dieu, il doit mener sa vie en marchant progressivement jusqu'au jour où il sera réuni avec son Dieu dans la patrie céleste. La marche suppose... La marche du croyant, je veux dire, elle suppose bien évidemment de marcher à contre-courant de ce monde, à contre-courant des principes qui régissent ce monde. Parce que nous rendons compte, comme Paul va le dire aux Éphésiens, autrefois, il y avait une marche qui entachait notre vie, et cette marche-là n'était pas à la gloire de Dieu. Nous étions ces enfants de colère, Paul le dira, nous marchions selon les convoitises. Les convoitises. Mais depuis le jour où Jésus s'est révélé à nos cœurs, depuis le jour où il nous a éclairés, depuis le jour où il nous a arrêtés dans notre folie pour nous amener à prendre une autre direction, pour nous montrer le chemin de la vie, il est question maintenant de marcher. Non pas à l'image de ce monde, mais à contresens, à contre-courant des pensées de ce monde. Parce que c'est ce à quoi le Seigneur est venu nous délivrer pour la gloire de son nom. Alors cette marche suppose vraiment de mettre de côté tout ce que nous voyons comme attirance dans ce monde. Et cette marche à contre-courant des valeurs de ce monde, lorsque nous engageons dans la marche avec Dieu, nous reconnaissons que, évidemment, elle engendrera des souffrances. C'est savoir reconnaître le bien, mais c'est aussi savoir reconnaître le mal. Vous savez, Jésus lui-même savait que le chrétien aurait besoin de la grâce de Dieu dans sa marche avec lui. Lorsqu'il va accomplir son œuvre, il va adresser à son Père une dernière prière. Dans Jean au chapitre 17, Jésus adresse une prière. Il va prier en ces termes en disant, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Voilà la prière de Jésus. Jésus n'était pas en train de demander à Dieu d'épargner le chrétien, le croyant, des combats et les souffrances qui les attendent. Ce n'est pas ce que Jésus demande, parce qu'il sait que le chrétien a son œuvre à faire dans ce monde. Nous sommes appelés à être témoin du Seigneur et refléter la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Mais ce qu'il demande avec instance, une dernière prière avant de retourner au Père, Jésus dira ceci: préserve-les du mal. Préserve-les du mal. Revenons à cet homme Hénoc. Par sa vie, Hénoc nous montre qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons nous aussi marcher avec Dieu jusqu'au bout de notre vie sur la terre. Quelqu'un me dira, « Pasteur, croyez-vous que ce soit possible ?» J'aimerais que l'on puisse ensemble considérer avec attention le contexte dans lequel était cet homme Hénoc. Genèse chapitre 5 se situe entre Genèse 4 et Genèse 6. Que s'est-il passé dans Genèse chapitre 4? Que s'est-il passé? Lorsque Adam va mettre au monde Caïn et Abel, Genèse 4 nous montre que c'est la jalousie qui a pris le pas dans le cœur de Caïn. Et par jalousie, il a commis le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Et quand nous lisons Genèse chapitre 6, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit? C'est là que nous comprendrons ensemble. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors, l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Verset 7, 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. » Voilà le contexte. Les contemporains d'Enoch vivaient dans le péché. Il y avait une immoralité sans pareil, au point que le cœur de Dieu même était affligé. L'homme, par ses actions, a suscité la colère dans le cœur de Dieu. Donc, voyez-vous comment quelqu'un me dira, est-ce possible? Je dis oui, c'est possible parce que cet homme était dans un contexte qui n'était pas facile. Il était dans des circonstances qui peut-être ne lui permettaient pas de choisir une façon de vivre qui allait à l'encontre de ceux qui étaient à ses côtés. Et pourtant, quand nous lisons l'épître de Jude, il nous est dit ceci. Jude, les versets 12 à 14. Voilà, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment en bonne chair, se répaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux, écoutez bien, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saints myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Voilà l'atmosphère qui régnait à l'époque d'Enoch. Et pourtant, il va se démarquer. Frères et sœurs, nous examinons la société dans laquelle nous sommes, quand nous voyons le contexte dans lequel nous vivons, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas loin de la condition dans laquelle était Enoch. Aujourd'hui, encore, les hommes ne font pas cas de Dieu. Chacun vit comme bon lui semble. Chacun vit comme bon lui semble. Et on murmure pour tout, pour un oui ou pour un non. Il va le dire, il murmurait. Aujourd'hui, les hommes ne murmurent pas. Vous n'avez jamais murmuré. Hein? Ah, vous acceptez tout. Hein? Ah. Il murmurait. Et pourtant, cet homme n'ayant même pas de connaissances, en effet, il n'a pas comme nous aujourd'hui, il n'a pas nous aujourd'hui la révélation quand même de la personne de Christ. Il n'a pas, comme nous l'avons, la nouvelle alliance. Il n'avait même pas la loi. Mais pourtant, la loi, elle était écrite déjà dans son cœur. Et nous, nous avons la loi. Nous avons les saintes paroles. Nous avons la révélation de Christ. Nous avons la nouvelle alliance. Nous sommes dans les temps de la grâce. Et pourtant, il est difficile pour les hommes d'aujourd'hui de mener cette vie qui est à la gloire de notre Dieu. Et ce à quoi le Seigneur attend de tout un chacun. Il n'avait pas cette connaissance et pourtant, cet homme a su marcher avec Dieu pendant 300 ans. Marcher avec Dieu, c'est ce que Dieu lui-même réclame de ceux qu'il a arrachés, de ceux qu'il a, il a fait son peuple lorsque le Seigneur va choisir Abraham. Dans Genèse au chapitre 17, il va dire une parole à Abraham. Il lui dira ceci, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu s'est d'abord révélé à Abraham. Il s'est fait connaître à lui. Avant de demander à Abraham de marcher avec lui, il s'est révélé, il s'est fait connaître. Et en se faisant connaître, il a fait connaître à Abraham ce qu'il attendait de lui. En se faisant connaître, il a fait connaître à Abraham sa volonté et il a demandé à Abraham de marcher dans sa volonté. Il n'a pas obligé Abraham. Personne n'a obligé Enoch. Dans Michée au chapitre 6, verset 8, il nous est dit ceci. Michée chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ce que l'Éternel demande de vous et de moi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et après c'est quoi? Que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher avec Dieu, c'est ce qui est bien aux yeux de Dieu. Il dira au homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande. Frères et sœurs, voilà ce que l'Éternel demande de vous et de moi. Au sein d'une génération perverse, au sein d'une société qui ne fait pas cas des choses de Dieu, voilà, ni de Dieu, au sein d'une génération qui vit comme bon lui semble, voilà ce que Dieu demande de ceux et celles qui ont goûté à son amour, qui ont reconnu réellement que c'est à cause d'eux qu'il a livré son fils Jésus. Le Seigneur dira ce qui est bien et ce que je demande, c'est que vous marchez humblement avec moi. Vous savez, ça va à l'encontre de la pensée humaine, des hommes de notre société qui ne comprennent pas cela. Et pourtant, nous avons lu dans l'Épître aux Hébreux ce qui a été dit d'Enoch. J'aimerais voir avec vous, juste pendant ces quelques minutes, ce que ça représente marcher avec Dieu. Dans cette partie des Écritures, Hébreux chapitre 11, verset 5, il nous est dit, c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé parce qu'il ne vit, pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Et quand nous faisons le parallèle avec ce que nous avons lu dans Genèse au chapitre 5, nous nous rendons compte qu'il est dit qu'Énoch, après la naissance de son fils, marcha avec Dieu pendant 300 ans. Il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. La marche chrétienne est une marche par la foi en Dieu et en son Fils Jésus. Par la foi. Et comme je le disais tout à l'heure, même si Enoch n'avait pas la connaissance que nous avons aujourd'hui de la personne du Seigneur, parce que rien d'écrit était là, n'était là, il n'y avait pas la loi. Aujourd'hui, nous avons les Saintes Écritures, nous avons la révélation de la croix, voilà, de son importance, de la nouvelle alliance, de la grâce. Nous avons toutes ces choses. Lui n'avait pas cela, mais il est dit, c'est par la foi. C'est par la foi. Comment est-ce possible de vivre par la foi alors que tout autour de nous nous dit le contraire? Comment placer notre foi en un Dieu lorsque nous voyons des hommes et des femmes qui vivent en contresens, qui ne font pas cas de Dieu et qui voilà, se plaisent parfois même de lever le poing contre Dieu, d'injurier Dieu? On se dit, ce n'était pas évident pour cet homme. Mais il est dit par la foi. Je crois que tout comme Abraham, à qui Dieu s'est révélé, Enoch aussi a eu quand même une révélation de Dieu. Sinon, comment aurait-il pu placer sa confiance en quelqu'un qu'il ne connaît pas? Est-ce possible? L'apôtre Paul va aussi faire une prière, et pas la moindre. Alors qu'il s'adresse aux Colossiens, chapitre 1, verset 9 à 11, il dira ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté et de, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. La prière de Paul, elle a toute sa place même encore aujourd'hui. Il prie que ces chrétiens aient la connaissance de la volonté de Dieu pour pouvoir marcher. Frères et sœurs, nous ne pourrons pas marcher comme Dieu le demande tant que nous ne prenons pas ce temps-là de le connaître. Tant que nous ne prenons pas ce temps de savoir ce qu'il attend de nous. Une chose est de connaître sa volonté. Une autre, c'est d'y obéir. C'est deux choses. Hein? Nous connaissons la volonté de Dieu parce qu'elle est écrite dans sa parole. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons ce que Dieu nous demande. Parfois, on me dit, c'est un pasteur, comment connaître la volonté? On sait comment connaître la volonté de Dieu, par sa parole, par son esprit. Mais le problème n'est pas là, frères et sœurs. Le problème n'est pas la difficulté à connaître la volonté de Dieu. Le problème que nous avons, c'est d'y obéir. Il est là le vrai problème. Mais Paul prie pour qu'ils aient la connaissance de la volonté de Dieu. Ce n'est pas une simple connaissance, mais pour qu'ils puissent entrer pleinement dans ce que Dieu attend d'eux. pour pouvoir marcher comme Dieu le veut. Frères et sœurs, si nous voulons marcher à contre-courant des pensées de ce monde, afin de pouvoir révéler Dieu, afin de pouvoir donner envie à ceux qui nous entourent, pour qu'ils puissent un jour se dire « Waouh, ces hommes et ces femmes, ils ont quelque chose que je n'ai pas. » Alors, ça m'incite à aller voir. Soumettons-nous à ce que Dieu demande dans sa parole. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux se sert de le chapitre 11 de la vie de certains hommes et femmes qui ont marché, il montre là la seule forme de foi acceptable à Dieu. Quand nous lisons le chapitre 11, pour ceux qui étaient là vendredi à la réunion de prière, nous avons partagé ces choses-là. Quand nous lisons le chapitre 11, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Et après, voulant montrer réellement, il dira « C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. » Plusieurs fois. C'est par la foi suivi de quelqu'un. Et il est question d'Enoch au verset 5 en disant « C'est par la foi qu'Enoch, c'est par la foi que Dieu va enlever Enoch. » Mais sur quelle base? Sur quelle base? Comme je l'ai dit, il n'est pas question, quand nous lisons les Écritures, nous ne voyons pas les miracles qu'Enoch a fait. Nous ne voyons pas les prodiges, nous ne voyons aucun sacrifice que cet homme a fait. Le seul fait qui est mentionné et qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, c'est quand il est dit « Enoch marcha avec Dieu ». Frères et sœurs, si nous voulons obtenir la faveur de Dieu, ce n'est même pas dans les choses que nous faisons. Même dans l'Église, ce sont des choses secondaires. Ce que je fais, même, ce n'est même pas en prêchant que j'aurai la faveur de Dieu. Ce n'est pas la priorité. Ce qui est primordial, c'est ma façon de vivre. C'est ma façon de vivre. Parce que Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur. Alors, frères et sœurs, de ce qui ressort, il est question vraiment d'une foi. Lorsque nous lisons ce chapitre 11-là, il est question d'une foi qui a triomphé dans les pires moments de la vie de ces personnes-là. Quand nous lisons tous ceux qui sont nommés, parfois on dit les héros de la foi. Moi, je n'aime pas ce mot-là. Je préfère les témoins de la foi. Mais ces hommes et ces femmes ont enduré des moments difficiles. Mais malgré tout, ils ont persévéré. Ils ont persévéré jusqu'au bout. Et vous conviendrez avec moi que la foi qu'ils ont eue, la foi qui triomphe des épreuves, est celle qui s'appuie et qui se fonde sur la parole de Dieu. Pas celle que nous avons qui s'appuie sur nos pensées, sur ma façon de voir. Non, elle s'appuie sur la parole de Dieu. C'est la seule foi qui tiendra debout. Celle qui s'obtient en obéissant au commandement de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, si notre marche avec Dieu ne comporte pas ces éléments-là, posons-nous des questions. Posons-nous des questions sur notre connaissance de la personne de Dieu. Paul dira, il va prier pour que ces chrétiens, les chrétiens de Colosse, aient la connaissance de la volonté de Dieu. C'est dans notre intimité, frères et sœurs, dans notre relation personnelle, que nous pourrons cultiver ces choses-là. Je ne peux pas me permettre de vivre d'une manière bancale avec mon Dieu et vouloir connaître sa volonté. Voyez-vous, il n'est pas question de perfection. Parce que la condition dans laquelle était Enoch, peut-être que cet homme un jour a chuté. Peut-être qu'un jour il a fait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Mais malgré tout, il s'en remettait toujours à la grâce de Dieu. Et quand il y avait des situations, comme nous aussi, parfois ça nous arrive de chuter, ça nous arrive de trébucher. Mais qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ? Que je fléchisse le genou en disant, Seigneur, vois le péché, vois cette façon de vivre qui n'est pas à ta gloire, je te demande pardon, viens à mon secours et je me relève et je continue ma marche ayant goûté au pardon de Dieu. Ah, il est ici. Moi, je bénis Dieu pour un tel homme. S'il y a un exemple que je veux avoir dans ma vie, c'est Enoch. Pas l'exemple qui frappe aux yeux, non, un exemple qui est caché, mais qui est approuvé de Dieu. Il a reçu ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il n'a pas été agréable parce qu'il jouait de la bonne musique. Et non, il n'a pas été agréable parce qu'il a bien prêché. Il n'a pas été agréable parce qu'il sert dans l'église. C'est bien ces choses-là. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est bien. Mais c'est secondaire. La marche avec Dieu doit primer sur notre service pour Dieu. Et je le dis à moi. Ma marche avec Dieu doit primer sur la prédication. Enoch, il s'est efforcé de mener une vie sainte. Comme je vous ai dit, ce n'était pas facile avec ses contemporains. L'apôtre Jean nous dira ceci. Dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 5 à 7. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Amen. Vous savez, l'apôtre Jean ne parle pas d'un péché involontaire. Vous savez, car si on devait s'arrêter à la perfection, personne, je dis bien personne, ne serait admis dans la présence de Dieu. Personne. Mais il parle d'une volonté de se soustraire à la lumière de Dieu pour une préférence pour l'erreur du péché. Enoch non seulement était un homme d'une piété remarquable, mais il va être comme un prédicateur pour dénoncer la mauvaise façon de vivre. Frères et sœurs, et nous, et moi, et vous, qu'allons-nous montrer à ceux qui nous entourent? La troisième chose qui ressort de cette marche avec Dieu, c'est marcher dans les voies de Dieu. Amos, au chapitre 3, le Seigneur, par la bouche du prophète Amos, dira ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Deux hommes marchent-ils ensemble? Il est impossible de marcher avec Dieu sans être en accord avec lui. Malheureusement, combien de chrétiens ne veulent pas se plier à la volonté de Dieu? Combien de chrétiens ne veulent pas se plier à ce que Dieu demande? Et pourtant, ils se disent chrétiens. En marchant avec Dieu, Enoch était en accord. Il n'a pas fait qu'à sa tête. Il a marché avec Dieu, même dans ses imperfections, même dans ses faiblesses, il a marché avec Dieu pendant 300 ans. Et il ne fut plus parce que Dieu l'a enlevé. C'est un choix de vie, c'est une volonté qui est agréable à Dieu. Et je termine avec ce que Dieu va dire. Avant d'être enlevé, Dieu lui a donné le témoignage qu'il était agréable. Il était agréable avant d'être enlevé. Frères et sœurs, ce qui est agréable à Dieu, c'est notre marche avec lui. C'est cette prise de position, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est ce que le Seigneur nous appelle à devenir. Nous sommes appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde, à donner envie. Et n'est-ce pas ce que va faire cet homme? Ne devrons-nous pas également considérer la vie d'Enoch comme un exemple, comme un modèle de vie? Nous qui vivons dans une génération qui vit en contre-courant des choses de Dieu, ne sommes-nous pas appelés à marcher dans la sainteté de Dieu pour montrer à notre génération qu'il y a une vie meilleure à laquelle Dieu a programmé pour chacun de nous? En marchant avec Dieu, peut-être que nous ne serons pas enlevés comme lui. On le souhaite si le Seigneur revient pour nous enlever. Mais dans notre marche avec Dieu, nous pouvons nous rassurer que quelles que soient les circonstances, un jour le Seigneur se lèvera dans son ciel de gloire. Et il dira, bon et fidèle serviteur, entre. Entre dans le repos de ton maître. Ah, je me réjouis et je m'efforce également, malgré mes faiblesses, malgré mes imperfections, de marcher avec Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne me chercher. Il est là le vrai succès. Le vrai succès, c'est ça. La vraie réussite dans la vie, la vraie réussite dans notre vie, c'est notre marche dans la fidélité avec notre Dieu. Que Dieu soit béni, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide, et je prie vraiment de tout mon cœur que le Seigneur nous aide, quelles que soient les circonstances, afin que nous ayons toujours nos yeux fixés vers lui. Quand nous avons nos yeux fixés vers Dieu, nous ne nous laisserons pas ébranler. À partir de 65 ans, on ne sait pas comment il vivait Enoch jusqu'à cette période-là. On ne sait pas. Peu importe. Peu importe ce qui importe. Peu importe ce que la manière dont nous avions vécu hier. Ce qui importe, c'est aujourd'hui et demain. À partir du moment où il a eu son fils, il va y avoir cette conviction qui ne pouvait même plus vivre pour lui. Il vivait uniquement pour son Dieu. Frères et sœurs, si nous vivons, ce n'est pas pour nous. C'est pour Dieu. Et pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Voilà là la marche qui plaît à Dieu. La marche dans la fidélité. à notre Seigneur, à notre Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Quelle joie, Seigneur, de t'avoir dans nos vies et de savoir, Éternel, que tu as changé notre façon de voir, notre façon de vivre. Seigneur, par ton amour, tu nous montres chaque jour le chemin par lequel nous devons marcher pour cette vie heureuse et épanouie. Seigneur, je te prie dans ta grâce, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous détourner de la grâce. Aide-nous à ne pas vivre comme bon nous semble. Seigneur, nous voulons t'être agréables. Quel que soit ce que pensent les hommes, Seigneur, ce qui compte, Seigneur, à nos yeux, c'est lorsque ton cœur de Père sera réjoui le jour où nous nous tiendrons devant toi. Seigneur, je veux bénir ton saint nom. Seigneur, je refuse de vivre d'une manière, Seigneur, de sorte que le jour où je me tiendrai devant toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce que tu auras à me dire, Seigneur, j'en rougisse, Seigneur. Ô Seigneur, viens-nous en aide. Seigneur, si quelqu'un, au milieu de nous, vivait comme bon lui semblait, tu es, Seigneur, celui qui nous reprend avec douceur et tu sais bien le faire plus que tout autre. Alors nous te supplions dans ta grâce, viens à notre secours. Oui, que par notre vie, Seigneur, non seulement, oh, Seigneur, ton cœur de Père soit glorifié, non seulement ton cœur de Père se réjouit, Seigneur, mais nous voulons que par notre vie, par notre marche avec toi, oh, Seigneur, tu suscites la curiosité de ceux et celles qui sont autour de nous et qu'il y ait ce désir-là, Seigneur, de connaître ce Dieu en qui nous avons cru. Oh, gloire te soit rendue. Oui, Seigneur, quelle joie de marcher avec celui qui a livré sa vie pour nous. Et dans notre voyage ici-bas, Seigneur, nous voulons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, nous voulons te suivre dans les bons comme dans les mauvais jours, en sachant que la récompense, Seigneur, nous attend pour la gloire de ton nom. Amen.